Les élections départementales des 20 et 27 juin, vous le savez, nous en parlons sur votre radio et aujourd'hui nous sommes dans le canton du Lude avec un candidat qui va parler au nom des trois autres personnes qui l'entourent dans cette démarche. Bonjour Dominique Groulx.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous sur Radio Prévert. Vous vous présentez sous l'étiquette Osons la Sarthe à gauche. C'est le Parti Socialiste et ses alliés qui sont rassemblés sous cette bannière. Dans quelques minutes avec vous, on va voir quelles sont les principales mesures que Osons la Sarthe à gauche propose aux électeurs. Et puis, vous nous direz de façon plus spécifique quelle est votre vision pour le canton du Lude. Mais avant, ce serait bien de nous présenter le quatuor qui sollicite les suffrages des électeurs dans le canton du Lude. On va commencer par qui ? Vous-même ou les trois autres ?
On va commencer par Elisabeth Bourget, si vous le voulez bien, donc, qui est mon binôme, qui est une enseignante, chef d'établissement scolaire. Elle est créatrice et chargée de l'animation d'une école inclusive pour aider les enfants en difficulté ou en situation de handicap à suivre une scolarité adaptée qui préservera leurs chances d'avenir. Ça se passe à la Fontaine Saint-Martin. Elle est assistée de Marie-Thérèse Brebion, qui est chef de chœur, qui est une artiste de profession, et qui dirige actuellement le restaurant Le Magique, donc, qui se trouve au rond-point du Chêne Vert, sur le territoire de la commune de la Fontaine Saint-Martin. Mon suppléant, c'est Nicolas Chauvin, qui est fléchois, mais qui occupe aussi des fonctions de vice-président du pays Vallée du Loire en charge du plan énergie-climat. Et moi-même, donc, ancien secrétaire général de la sous-préfecture de la Flèche de 2005 à 2015 et aujourd'hui conseiller municipal retraité à la Fontaine-Saint-Martin.
Donc ça veut dire que vous n'êtes plus aux affaires.
Je ne suis plus aux affaires.
Et pourquoi avez-vous décidé qu'il fallait avoir des représentants de la liste Osons, la Sarthe à gauche, comme candidat dans le canton du Lude ?
Bah écoutez, moi je répondrai à votre question en donnant ma motivation. J'ai une double motivation dans cette candidature. La première, c'est que cette candidature s'inscrit dans le prolongement de mon activité professionnelle de fonctionnaire. J'ai été pendant 30 ans fonctionnaire, principalement du ministère de l'Intérieur. Et en dernier lieu, donc, fonctionnaire à la sous-préfecture de la Flèche. Et j'inscris cette candidature dans le prolongement de mes activités professionnelles au service de l'intérêt général. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle tient à mes convictions. Mes convictions, et principalement au fait que je ne pouvais difficilement admettre que 40 ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, les idées et les valeurs du parti qu'il a créé ne soit pas représenté dans le canton du Lude en 2021. Donc voilà les deux raisons, une raison plus pratique et une raison plus politique, si vous voulez.
Est-ce que vous savez les motivations des autres personnes qui vous entourent ?
Les motivations des autres personnes, disons que Elisabeth Bourget et Marie-Thérèse Brebion ne sont pas membres, pas plus que moi d'ailleurs, d'une formation politique. En revanche, Nicolas Chauvin est membre du PS. Mais, je veux dire, nous avons des valeurs et des idées qui s'inscrivent dans celles de cette formation politique.
Alors voilà donc pour la présentation et les motivations. Et comme je le disais, c'est sous la bannière Osons la Sarthe à gauche que vous vous présentez dans le canton du Lude qui a failli ne pas avoir justement des candidats sous cette étiquette. Et on se souvient que lors du scrutin précédent, il y avait un binôme Karine Ménage et puis Jean-Claude Boisio qui a sollicité les suffrages des électeurs. Donc pour vous, c'était important qu'il y ait donc cette candidature qui se veut plus qu'une candidature de témoignage, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit.
Oui, et vous avez raison de le préciser. Et j'ajoute que 48 heures avant la fin de la date du dépôt des candidatures, je n'étais pas candidat. Je n'étais pas candidat parce que je n'avais pas de binôme et je n'avais pas de remplaçant. Donc tout s'est joué quelques heures avant la date fatidique. Mais les choses sont en place maintenant et je suis très heureux que cette situation ait pu évoluer dans le sens où elle a évolué et que je puisse donc représenter des idées de cette formation politique dans ce canton.
Et tout s'explique aussi, hein, Dominique Groulx, le président de votre comité de soutien, c'est pas un inconnu sur le territoire.
C'est vrai.
C'est qui ?
Il s'agit de Guy-Michel Chauveau, donc, qui est retiré des affaires aujourd'hui, mais évidemment que l'on ne présente pas.
Et il ne s'est pas fait prier pour vous accorder son soutien ?
Non.
Alors, les enjeux pour le canton du Lude sont importants à vos yeux aussi, au-delà de la présence des idées de la gauche. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est important d'avoir une candidature à la hauteur des enjeux pour ce canton-là ?
Bah écoutez, lorsque j'ai pris mes fonctions en 2005, ce canton était dégradé, je dirais même très dégradé. Lorsque j'y suis arrivé, l'entreprise qui fabriquait du mobilier au Lude,
Pelletée,
venait de fermer ses portes. Puis est arrivé l'épisode d'une entreprise qui se trouvait dans le canton d'à côté, dans le canton voisin, Armand Becker, mais où de nombreux habitants du canton du Lude travaillaient, qui a aussi fermé ses portes. Et puis, naturellement, le désastre de Candia, hein, au Lude, qui a mis au chômage plusieurs centaines de personnes. Donc, un canton dégradé, lorsque je l'ai trouvé. Mais un canton qui a du potentiel, maintenant. Et c'est là que je pense qu'on peut intervenir, à la fois dans le domaine de l'emploi, de la réindustrialisation de certains sites de ce canton, et du tourisme. Donc voilà, si vous voulez, le triptyque, hein, sur lequel il me semble possible d'actionner des leviers.
Un canton donc qui a connu des difficultés, vous en parliez. Donc si vous vous battez pour que ce canton puisse revivre, c'est que vous croyez en ses atouts. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'urgence ? Parce qu'aujourd'hui, on en parlait hors antenne, hein, la crise sanitaire a impacté pas mal de choses. Et puis la crise sanitaire a aussi eu un impact sur ce processus politique. Normalement, on aurait dû évoquer avec vous quel est votre agenda, où est-ce que vous serez en campagne, quelle soirée électorale ou autre. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Donc aujourd'hui, quelle est l'urgence selon vous, en tenant compte aussi de cet aspect de la crise sanitaire qui a bouleversé pas mal de choses ?
Moi, je crois qu'il y a deux urgences. La première, c'est la situation des jeunes. La situation des jeunes au regard de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté dans ce canton comme ailleurs, mais pour lesquels on peut proposer des solutions. Bon, on pourra peut-être rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Et la deuxième urgence, dont on parle peu, mais c'est la situation du grand âge. Dans 20 ans, dans ce pays, il y aura 1 200 000 personnes dépendantes. Il faut les préparer à une vie, une fin de vie heureuse, ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des électeurs, des électrices, ce sont aussi des consommateurs, des acteurs de la vie économique. Donc, il faut aussi s'en occuper. Donc voilà, si vous voulez, ça correspond à peu près aux deux extrémités de l'existence. La jeunesse, après la vie active, et le grand âge. Donc c'est un éventail, si vous voulez, de mesures qui me semblent urgentes, sur lesquelles il me semble urgent de réfléchir.
Et en termes de solutions pour la jeunesse ?
Alors la jeunesse, c'est la proposition d'ailleurs que fait le PS, hein, c'est d'offrir aux jeunes de 18 à 25 ans de souscrire un contrat pour leur permettre de réaliser leur projet. Alors un contrat, ça veut dire un engagement de la part des jeunes à travailler sur un projet, et puis la contrepartie, c'est de les aider financièrement à y parvenir. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui concerne l'emploi, qui pourrait, à mon avis, être très intéressant d'expérimenter. C'est le dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc c'est un dispositif qui est complexe d'expliquer, mais qui est basé sur le fait que une équipe spécialisée formée à cet effet va rechercher les jeunes et en fonction de leur qualification, de leur envie, de leur disponibilité, va leur offrir la possibilité d'une formation. Alors que on a l'habitude de voir les chefs d'entreprise aller chercher, recruter, embaucher des gens. Tandis que là, c'est la situation inverse. On va partir de la qualité des gens pour offrir un travail en fonction des compétences, des attributions, d'un passé professionnel, des envies aussi, je crois que c'est important. Donc voilà, donc un dispositif qui, je crois, fonctionne déjà dans un certain nombre de régions françaises et qui progresse bien à la flèche. Il y a donc engagé une procédure dans ce sens.
Oui, puisqu'il y a un chargé de projet qui a été récemment nommé à la Flèche, recruté à la Flèche et qui reçoit chaque mardi après-midi les personnes intéressées par le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée.
Et ça, je pense qu'on pourrait utilement le mettre en place, je pense à la commune du Lude, mais aussi à celle de Maillé, dans le périmètre de ces territoires qui sont impactés fortement par le chômage.
Vous évoquiez également le grand âge, qui ne doit pas être vécu de façon indigne, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour ne pas tomber dans cet écueil-là, Dominique Groux, candidat aux Ons la Sarthe à gauche, dans le canton du Lude, en binôme avec Elisabeth Bourget, avec comme remplaçant Marie-Thérèse Brebion et Nicolas Chauvin.
Il faut, selon moi, faire deux choses. La première, c'est permettre aux personnes qui le souhaitent de rester chez elles. Il y a 92% des personnes de plus de 75 ans dans ce pays qui souhaitent rester à domicile. Mais il faut les aider, naturellement. Ça veut dire leur proposer un soutien, leur proposer des aides, un service à la personne. Donc, premier point, permettre aux gens de rester chez eux. Deuxième point, ça concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie. Ces personnes-là, elles sont nombreuses et elles accroissent tous les ans. Il faut leur offrir des hébergements de qualité où ces personnes ou elles pourront bénéficier des soins dont elles ont besoin. Donc voilà, c'est ces deux axes qu'il faut, à mon avis, sur lesquels il faut travailler. Et il faut travailler rapidement maintenant parce que le temps passe et il ne faudrait pas se retrouver dans des situations d'étranglement. Ce serait vraiment catastrophique.
Dominique Groux, il y a aussi dossier qui est très important. Maintenant, le problème commence même à devenir pointu au niveau des aires urbaines. La santé est un problème. On parle de la désertification médicale. Est-ce que, aujourd'hui, vu le nombre d'années que cela prend avant de former un médecin, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des solutions que vous pourriez brandir pour que, eh bien, on résolve ce problème-là, parce qu'il y a certains des habitants du territoire qui n'ont même pas de médecin traitant.
Exactement. Alors écoutez, bon, il y a plusieurs solutions. Hein, on entend d'ici de là plusieurs solutions, de mettre en place des bus itinérants, équipés de médecins, de dentistes, etc. Donc, c'est vrai, on peut réfléchir à des solutions de ce type. Mais moi, je crois fondamentalement qu'il faut, dans ce pays, conserver la médecine libérale. C'est-à-dire permettre aux gens de choisir leur médecin. C'est ça, la médecine libérale. Les médecins de ville. Donc, je crois que les Françaises et les Français sont attachés à cela. Et il faut donc des médecins, il faut les faire venir. Alors, il faut leur faciliter l'installation, les regroupements dans des maisons pluridisciplinaires. Je crois que ça fonctionne assez bien. Et puis, ça c'est une première chose, donc sauvegarder la médecine libérale. Je veux dire, ne pas fonctionnariser trop les médecins. Mais on ne peut pas tout à fait écarter l'idée des contrats de travail, hein, c'est-à-dire... On ne peut pas écarter l'idée
de médecin salarié.
On ne peut pas l'écarter parce que c'est une solution, mais évidemment, un médecin salarié, c'est un médecin qui n'est plus libre. Hein, on va lui imposer des suggestions, on va lui imposer de prendre ses congés à des dates particulières, on va lui imposer une certaine forme de gestion de son cabinet. Donc, à mon avis, il va perdre un peu, le médecin, dans son autonomie et dans son organisation personnelle. Mais, encore une fois, on ne peut pas l'écarter. Donc il faut jouer sur, à mon avis, ces deux leviers, trouver le compromis qui va bien.
Et puis il y a aussi aujourd'hui, Dominique Groulx, un dossier important, celui de notre cadre de vie, à l'aune des différentes mobilisations pour le climat, ça devient un sujet intergénérationnel. Hein. C'est les jeunes générations maintenant qui s'en saisissent à bras le corps. Avant, on ne les voyait pas trop s'impliquer. C'est pour vous un bon signal, ça, qu'on voit des jeunes s'engager pour le climat?
Oui, excellent signal. Je crois que les jeunes, c'est leur avenir, hein. C'est l'avenir du pays. Hein. Donc, ils ont raison de s'engager. Maintenant, est-ce que l'écologie politique, au sens vraiment premier du mot, est-ce que l'écologie politique, c'est la solution? Moi, je crois que la sauvegarde de la planète, c'est au niveau planétaire qu'il faut le traiter. Bien sûr, on peut prendre des mesures nationales, mais elles sont quand même assez limitées. Donc, je crois que l'avenir, c'est les grands accords internationaux. Bon, on sait les difficultés pour y parvenir, mais l'écologie politique, ça ne peut fonctionner qu'au niveau planétaire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre de mesures nationales, mais c'est mon sentiment. Donc il y a encore beaucoup de travail devant nous pour essayer de... Les populations, l'opinion publique, je pense qu'elle est d'accord. Et maintenant, il reste à convaincre les dirigeants.
Pour que chacun s'implique vraiment.
Je le crois. Parce que, je veux dire, les résultats environnementaux des politiques environnementales, c'est assez limité quand même, national. C'est assez limité.
Votre canton du Lude, il y a aussi dans ce canton, Dominique Groulx, des agriculteurs. Ces agriculteurs, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Parce que c'est aussi une des missions du département, même si la compétence économique est partie du côté de la région. Mais est-ce que le conseil départemental a encore quelque chose comme levier pour s'intéresser à ce qui est fait en matière d'agriculture sur le territoire? Et parlant de vous, si les électeurs vous font confiance avec votre binôme, Elisabeth Bourget, qu'est-ce que vous partageriez avec les agriculteurs installés sur le canton?
Non, moi j'ai envie de dire aux agriculteurs de continuer à se battre. Hein. Cela dit, les compétences du département sont assez limitées. Hein. Bon, l'agriculture dans ce pays, c'est la PAC. Hein. C'est la politique agricole commune. Et c'est là que le bât blesse. Hein. C'est là que les difficultés apparaissent. C'est là qu'il faut trouver des accords. Pour que les agriculteurs puissent vivre normalement de leur travail. Donc voyez-vous, les politiques nationales, encore une fois, on est dans le cadre d'un système qu'on a voulu, hein, qu'on a créé, et qui comporte des perversités. Donc la politique agricole commune, oui, mais pas celle qui est menée aujourd'hui, qui ne donne pas satisfaction aux exploitants.
Et ces exploitants qui, vous l'avez dit, hein, qu'il faudrait qu'ils se battent, aujourd'hui, y en a qui ne vivent pas de leur métier correctement. Il y a de temps en temps des mobilisations au Mans, devant la préfecture. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous pour que ceux qui nous nourrissent puissent vivre correctement et ne pas compter sur la fameuse PAC que vous avez évoquée?
On sait, mais il y a le fait de s'adresser, de réduire les circuits. Hein. On parle de circuits courts, on parle d'une alimentation nationale. Mais bon, c'est vrai que c'est un levier intéressant, mais est-ce suffisant? C'est ça. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça soit suffisant. Donc oui, il y a des possibilités. Mais encore une fois, la dimension internationale est vraiment très très forte en matière d'agriculture.
Donc là,
les prix, voyez bien les prix des céréales, c'est des prix mondiaux, je veux dire. Les agriculteurs ne négocient pas ça. Il faudrait alors changer tout le système, mais alors on s'engagerait vers quoi? Changer tout le système, ça prendrait un temps fou. Je suis un peu désarmé là pour répondre, parce que vu le socle, le système sur lequel est fondé toute l'agriculture, ça me paraît quand même vraiment une tâche énorme pour modifier, changer tout ça.
Mais vous leur dites de se battre, c'est le message.
Il faut qu'ils se regroupent, c'est sûr. Il faut qu'ils... Bon, ils ont des organisations professionnelles qui sont puissantes. Donc, il faut qu'ils se mobilisent, qu'ils se fassent entendre. C'est sûr qu'ils ont des revendications tout à fait légitimes. Il faut continuer le combat.
Alors, Dominique Groulx, vous évoquez donc la nécessité que ce canton du Lude puisse avoir des représentants qui portent l'étiquette Ozon la Sarthe à gauche. Hein. Donc pour cela, il va falloir que les électeurs vous fassent confiance. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment eu de campagne. Comment faites-vous alors pour faire connaître vos idées? Comment faites-vous pour... entrer en contact avec les électeurs? Comment ça se passe, cette drôle de campagne, si j'ose dire?
Je veux dire, on fait un peu tous la même chose, hein, j'ai l'impression. Hein. On va sur les marchés, distribuer des tracts, on est accueillis dans des studios de radio, aujourd'hui. J'ai essayé, mais je crois que c'est un échec, de faire des réunions publiques. Mais je veux dire, je crois que ce n'était pas une bonne idée.
Les gens ne viennent pas.
Donc, comment faire pour les mobiliser? Je vois à quoi vous faites allusion, c'est l'abstention.
C'est ça.
Écoutez, les électeurs, l'abstention, je veux dire, la démocratie est en panne dans ce pays. Depuis déjà plusieurs années, elle est en panne. Il faut la réparer. Les mécaniciens, les réparateurs, ce sont les électeurs et les électrices. Ils ont la qualification pour ça. La qualification, c'est leur carte d'électeur. Ils ont les outils pour ça. Les outils, c'est les bulletins de vote. Donc, il faut que les gens se mobilisent pour que la démocratie revive dans ce pays, qu'elle soit dynamique, parce que la démocratie, c'est une chance de pouvoir voter. Ce n'est pas le cas dans tous les États de ce monde.
C'est clair.
Donc, c'est une chance, et il faut la saisir. Et il ne faut pas oublier que en France, c'est le peuple qui est souverain et qui détient le pouvoir qu'il délègue à ses représentants. Donc, si le peuple veut se faire entendre, il faut qu'il se manifeste.
20 et 27 juin, avons-nous dit, pour ce scrutin qui est important, puisque le rôle du département, il est tout aussi important, même si on dit aujourd'hui que les pouvoirs, les compétences vont vers la région, mais à vos yeux, le conseil départemental a encore sa pertinence.
Bien sûr, puisqu'il a des compétences, il exerce des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Obligatoires, on les connaît, hein, les routes, l'entretien des routes, en matière sociale, le RSA, qui pose beaucoup de difficultés, parce que c'est pas le lieu ni le moment d'évoquer ça, mais c'est une compétence du département. L'aide aux personnes âgées, hein, ça aussi, c'est important. Et puis, les subventions, hein, qui sont des compétences facultatives, les subventions aux associations, aux communes, hein, pour les aider à réaliser leurs projets. Donc, le département, c'est sûr que c'est une collectivité importante qui joue tout son rôle, mais qui doit disposer, puisque l'État se décharge d'une grande partie de ses responsabilités sur les départements, il faut que les départements puissent bénéficier des crédits, de l'argent que leur doit l'État, hein, et puis qu'ils aient les moyens d'action, les moyens d'exercer leurs compétences. Donc là, je renvoie un peu dans le camp de l'État, mais bon, c'est la réalité.
Ça, le mérite de la clarté, ça devait être dit pour que les électeurs saisissent bien les enjeux de ce scrutin, parce que ce n'est pas toujours su. Les gens se mélangent un peu au niveau des compétences. Qui fait quoi exactement? Donc c'est important que vous leur rappeliez et que vous leur dites que ça vaut vraiment la peine de se déplacer les 20 et 27 juin prochains. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier sujet important à vos yeux et qu'il faudrait partager avec les auditeurs, Dominique Groulx ?
Non, mais je crois que je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. L'organisation territoriale de la France est complexe. Il y a l'État, les régions, les départements, les communautés de communes, les regroupements de communautés de communes au sein de pays. Les gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'on ne leur explique pas. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer, de faire de la pédagogie, leur dire ce que c'est un conseiller départemental, un conseiller régional, pourquoi il y a des regroupements de communes, pourquoi il y a des schémas directeurs, de ci, de ça. Vous voyez, il y a des procédures qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Tout ça, les gens n'ont pas les idées claires là-dessus. Vous faites un micro-trottoir, vous voyez, les gens n'ont pas les idées claires. Donc il faut faire de la pédagogie et expliquer ce que c'est, pourquoi les gens vont aller, j'espère, nombreux dans les bureaux de vote le 20 juin.
Le 20 juin, donc, pour que vous puissiez l'emporter dès le premier tour, c'est ce que je déduis de votre conclusion. Merci beaucoup, Dominique Groulx.
Merci.
Merci d'être venu nous voir sur Radio Prévert pour partager donc avec nous le sens de votre candidature collective. Vous l'avez inscrit, cette candidature, dans le collectif avec votre binôme Elisabeth Bourget, sa remplaçante c'est Marie-Thérèse Brebion et puis votre remplaçant, votre suppléant, c'est Nicolas Chauvin qu'on ne présente plus. Adjoint à la maire de La Flèche, donc vice-président de la Comcom du pays fléchois. Donc merci encore une fois et puis on se dit à bientôt sur Radio Prévert.
Merci, merci beaucoup.
Merci à vous.